Erudit.net, Richard van der.
Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui sur Herodote.net, André Larané, pour la première fois en audio, discute avec Emmanuel Toth, l'historien, le statisticien, dans une véritable photographie étonnante et sans langue de bois de notre société.
Donc, bonjour Emmanuel Toth, je vous remercie de recevoir Herodote.net. Est-ce que cela vous arrive de vous interroger sur la santé de nos sociétés actuelles ?
Alors, pour moi, la chose fondamentale, quand je suis sur ces concepts, c'est le passage du stade de l'individualisme, qui est une chose pour moi saine, au narcissisme, ce concept que j'ai repris à Lâche, c'est-à-dire on est dans des sociétés qui sont, je dirais, totalement atomisées par le fait que les individus sont tournés vers eux-mêmes, ce qui est dans une certaine dimension très, très bien acceptable. C'est-à-dire je ne suis pas un pessimiste culturel, je trouve que c'est bien que les gens veuillent réussir leur vie, veulent s'épanouir, se cultiver, mais le fait est que une société, si vous postulez une société où chacun s'intéresse à soi-même, vous avez des petits problèmes d'action collective, qu'on va retrouver en revanche dans le domaine économique, donc ça reste très, très important pour moi.
Ce que vous dites de votre analyse des sociétés par-delà les indicateurs économiques, me rappelle une phrase d'ailleurs du Fouet du prolétaire, parue en 79, donc où vous écriviez que l'Angleterre, de votre point de vue, oui, avait été en meilleure santé que les pays du continent.
À l'époque, mais c'est
ce qui était bien vu quand même, juste au moment où les observateurs parlaient de l'Angleterre comme un pays en voie de sous-développement.
Oui,
en
oui.
79, c'était avant.
Oui, oui, mais de toute façon, moi, je veux dire, en fait, ça fait bien longtemps que je n'ai pas parlé du Fouet le prolétaire comme livre, qui est un livre qui, dans mon travail, occupe une place très particulière, parce que c'est un livre qui, de mon point de vue, est très certainement, de tous les livres que j'ai fait, le plus mal foutu. C'est un mélange d'analyses statistiques, de coups de gueule contre des intellectuels français de l'époque. Enfin, c'est un véritable fatras, on peut le dire. Mais pour moi, c'est vraiment le moment où je me suis arraché à une conception économiste de l'histoire. C'est-à-dire où la dimension psychologique des phénomènes, la notion d'un équilibre psychique de société est devenue importante. Et bon, ensuite, je suis passé à la structure familiale. Et c'était le moment où j'ai accepté de voir l'irrationnel dans l'homme et dans l'histoire.
Mais vous l'aviez déjà entrevu. Juste avant 1976, vous publiez La Chute finale. Donc ça, c'est votre coup d'essai. Hein. C'est un beau coup, d'ailleurs, puisque dans ce premier livre, vous étiez donc, vous aviez 25 ans. Vous sortiez de Sciences Po et de Cambridge. Vous entrevoyez la chute de l'URSS.
Oui,
mais pour une raison très précise, c'est la mortalité infantile est en train de remonter.
Vous dites,
un pays, on peut tout supporter de ses dirigeants, sauf qu'ils laissent mourir nos enfants.
Oui, c'est vrai, mortalité infantile qui augmente. Il y avait aussi l'interprétation de la baisse de la natalité, de la fécondité, comme un phénomène de modernisation intellectuelle, et qui voulait dire que non, les Russes n'étaient pas devenus des homo soviéticus, et que le pays pouvait se transformer et se libéraliser. Mais si vous regardez le modèle interprétatif qui est derrière tout ça, ou à côté de tout ça, d'ailleurs, je m'attendais à dire, dans la chute finale, c'est très économique rationnel, en fait. Ce que je vais chercher, c'est l'échec économique du système, et les paramètres de l'analyse sont finalement assez marxistes. C'est en ce sens que le fou et le prolétaire passent carrément dans la dimension de l'irrationnel, avec cette idée de classe bourgeoise, finalement, plus malheureuse, plus anxieuse et plus suicidaire que les catégories ouvrières, qui est vraiment le renversement, en fait, du marxisme vulgaire.
Précisément, oui, vous avez beaucoup parlé du contexte politique, vous êtes beaucoup impliqué dans la politique à partir de 95 ou 94.
Oui, enfin, pas tout de suite, parce que pendant longtemps...
Bien sûr, on en reparlera.
Oui.
Mais en 94, vous vous impliquez dans c'est les débats politiques.
Oui,
c'est là que vous inventez le terme de fracture sociale.
Non, moi, j'ai rien inventé du tout. C'est de Marcel Gauchet. Il n'y a rien à faire. On me le colle toujours.
Alors, OK.
Voilà. Donc, vraiment, c'est pas...
Je vais vous attribuer.
Non, c'est dans un papier de Marcel Gauchet que j'ai retrouvé. Je pense que l'agent transmetteur à la campagne de Chirac, ça a été Henri Guénaud, qui avait fait l'habillage de la campagne de Chirac, comme il a fini par faire l'habillage de la campagne de Sarkozy. Mais, ouais, non, cela dit, l'analyse électorale qui était derrière, oui, ça, je l'avais faite. Oui.
Voilà, oui. Vous étiez à l'origine de cette analyse qui voyait dans le Front National, non pas l'expression d'une vague xénophobe, non pas seulement cela, mais aussi l'expression d'une rupture des classes populaires avec direction politique.
Voilà, c'est ça. Mais surtout, j'avais montré dans l'analyse électorale assez technique que les grands basculements électoraux, c'était à l'époque où les gens croyaient qu'il n'y avait plus que des classes moyennes. Ils pensaient qu'il n'y avait plus d'ouvriers, plus d'employés. Et donc, c'était l'époque où j'ai dit, non, mais regardez le recensement, il y a 50% d'ouvriers et d'employés. Les ouvriers sont aux trois quarts des hommes, les employés aux trois quarts des femmes. Souvent, ils sont mariés ensemble. Les milieux populaires, c'est énorme. Quand on voit les oscillations et les basculements électoraux, on se rend compte que c'est dans ce milieu-là que ça se passe. C'est ça qui était derrière. Et donc, c'est dans ce milieu-là qu'il y avait le Front National, toujours d'ailleurs.
Alors, aujourd'hui, que vous inspirent les phénomènes européens, comme on voit la victoire des nationalistes en Hongrie, les séparatistes en Flandre, le parti anti-islamiste aux Pays-Bas? Comment interprétez-vous ces phénomènes?
C'est toujours pareil. Je veux dire, la bonne interprétation, si on reste dans le thème là, qui a commencé... Si d'un côté les questions économiques, de l'autre côté, je dirais, l'irrationnel individuel ou collectif, ce qu'on est en train de vivre en Europe, c'est une situation économique ingérée, si on peut dire, par les classes dirigeantes européennes. Des inégalités qui montent d'une façon absolument phénoménale, le niveau de vie qui baisse dans de larges secteurs de la population maintenant, non majoritaire, mais important, le sentiment d'aller dans le mur. La réalité de l'Europe, c'est que c'est la région du monde qui est en crise. En fait, la planète va assez bien à part l'Europe. Et c'est une société très profondément atomisée, ça j'ai dit, c'est-à-dire d'individus narcissisés, seuls, isolés. Les croyances politiques n'existent plus, les croyances religieuses n'existent plus. Et donc, si vous êtes dans une société comme ça, vous n'avez que deux issues possibles. Vous avez arrivé à une solution économique, technique. Moi, je parle toujours de protectionnisme européen. Aucune des classes dirigeantes européennes ou pensantes même n'adhère à ça. Et si vous restez dans cette espèce de trou psychosociologique économique, je veux dire, vous avez naturellement poussé deux sentiments xénophobes. C'est un réflexe, on est au niveau du café du commerce, l'interprétation. Vous vous sentez pas bien, vous tapez sur le voisin, sur votre conjoint, sur l'immigré. Mais ce qui est intéressant, dans le moment présent, dans votre liste, il y avait l'islamophobie et puis, si mes souvenirs sont exacts, des nationalismes d'un autre type. Et ce qui est intéressant actuellement, dans le moment, c'est qu'on se rend compte que dans un premier temps, l'angoisse de l'Occident a porté à l'islamophobie, pas la crainte concrète de l'islam, mais un fantasme d'islam. Et là, on voit que ça déteint, on ne peut pas s'arrêter à l'islamophobie. Si vous avez un mouvement vers la xénophobie, ça va partir dans toutes les directions. Donc vous allez avoir, je dirais qu'en France, la dominante est à l'islamophobie, c'est-à-dire une islamophobie qui ne vient plus des milieux populaires, mais qui est propulsé par des catégories sociales moyennes et supérieures. Je pense à une sorte de petite intelligentsia xénophobe, islamophobe, etc. Mais ailleurs, ça prend de toute autre forme. Alors, aux Pays-Bas, vous avez aussi l'islamophobie. En Belgique, vous avez la wallonophobie, enfin, ou la francophobie. C'est-à-dire, alors, évidemment, on pourrait dire, pour les Flamands, c'est facile, parce que les immigrés en Belgique, c'est souvent des Marocains francophones. Donc, la Belgique, d'un point de vue flamand, est un pays merveilleux. On peut être à la fois francophobe et islamophobe d'un seul mouvement. Mais le cas de la Hongrie est très inquiétant, parce que la Hongrie est un pays très, à la fois très intelligent et violent. Donc, c'est vraiment un signe de quelque chose... je parle historiquement, je ne parle pas de vraiment, et on voit, c'est, moi ça me fait, chaque fois que je fais une conférence sur le protectionnisme économique européen, j'ai toujours quelqu'un qui se lève, personne de centre-gauche qui se lève et qui me dit « oui, mais c'est le protectionnisme, c'est la fermeture, c'est la xénophobie ». Voilà. Alors moi, je dis « non, mais arrêtez ». Je veux dire, le grand pays, le lieu de naissance du libre-échange, de cette ouverture au monde, c'est l'Occident, entre guillemets. Moi, je n'aime pas le mot Occident, mais l'Occident, c'est Europe plus États-Unis. Et c'est quoi la grande production idéologique de l'Occident dans la période du libre-échange? C'est l'islamophobie. Donc, en fait, c'est la vérité, c'est qu'on s'attaque. Le libre-échange, avec l'angoisse économique qui produit, génère de la xénophobie. Mais maintenant, ce qui est très intéressant, et ce qui fait peut-être avancer le Schmilblick, c'est que ça déborde la question de l'islamophobie. Maintenant, c'est entre Européens. Mais on a vu aussi... les Allemands commençaient à parler avec mépris des Grecs, autre sentiment xénophobe. Et en France, j'étais un peu rapide quand j'ai dit qu'on est avec l'islamophobie, parce que ce qui est tendance dans la période la plus récente, c'est le début d'une nouvelle germanophobie.
Oui.
Hein, c'est vraiment... C'est pas... Ouais, je vais dire, avec la xénophobie, on ne peut pas faire le choix, il faut prendre le tout. Hein.
Ça m'amène à une réflexion sur un livre que vous avez publié en 2003, après l'Empire, c'était juste après le 11 septembre. Et bon, vous êtes.
Ah non, c'était avant, je crois que le livre est sorti juste avant.
Juste avant.
Juste avant. Et
donc c'était une
fois. Il y a eu le 11 septembre et ensuite j'ai eu le président en bouche comme attaché de presse pour assurer le succès du livre.
Très bien. Voilà, donc, mais il était tellement bien dans l'esprit de la conjoncture que.
Oui, oui,
mais on pouvait penser qu'il avait été écrit.
Oui, oui, ah oui, c'est un coup. Mais c'est le contraire, c'est le pendant de la chute finale. C'est-à-dire que dans la chute finale, ce truc où j'avais cette espèce de flash sur la condamnation à terme du régime soviétique. Et j'avais le sentiment, au moment où on parlait de toute puissance américaine, d'hyperpuissance, qu'on refaisait la même erreur sur les États-Unis. Mais là, je veux dire, la vérification de la prédiction, etc., c'est fait presque trop vite. J'ai écrit le truc, et puis les Américains se sont lancés dans leur machin, et puis on a vu très vite qu'ils n'y arrivaient pas, et puis maintenant on est dans le bourbier afghan. Donc, voilà.
Alors, on ne peut pas vous reprocher d'être américanophobe. D'abord, vous êtes un fervent anglophile.
Oui, mais vous savez qu'il y a une forme anglaise de l'américanophobie. Hein.
Ouais. Mais cela dit, vous dites beaucoup de... Vous dites votre estime aussi pour les Américains de 1945, pour les Américains de l'après-guerre.
Non, mais pour les...
Et ce que vous écrivez, c'est qu'en historien, vous pensez en historien, vous dites que...
Non, mais vous savez, pour les États-Unis, je veux dire, et pour l'histoire, moi, je sais, j'ai dû répondre à toutes ces histoires, mais en fait, de mon point de vue, c'est pas juste l'Angleterre, c'est que le père de mon père est mort citoyen américain, réfugié juif autrichien... Ma mère, qui vient d'une famille aussi juive, mélangée, a été adolescente, réfugiée aux États-Unis. Quand elle était teenager, elle était une teenager américaine. Donc, si vous voulez, les accusations d'américanophobie, pour moi, ont toujours été complètement hallucinantes.
Oui.
Et bien entendu, dans ma tête, les choses... Les choses politiques et les questions d'équilibre politique sont une chose, mais et c'est clair que j'ai une identité de base de citoyen français, absolument lambda, je suis super content d'être français, tranquillement, etc. Mais quand même, dans mon travail, mon anglais oral est très dégradé par rapport à celui que je parlais quand j'étais étudiant à Cambridge, mais quand même, je continue à lire plus de livres en anglais qu'en français. Dans mon travail. Et j'ai plus de facilité, je lis plus facilement, pour des raisons de formation intellectuelle, un livre d'anthropologie anglaise ou américaine qu'un livre d'anthropologie français. Donc, si vous voulez, des accusations d'américanophobie, pour moi, je veux dire, c'est le pur délire.
Alors, cela dit, pour en revenir à votre livre, écrit...
Mais quand même, politiquement, ils font chier. Hein. Je ne jouerai pas...
C'est un peu ce que vous écriviez à ce moment-là, en 2002 ou 2001. Les États-Unis sont en train de devenir un problème pour le monde. Et alors là, je voudrais vous demander si vous persistez dans cette idée, parce que est-ce que Obama n'a-t-il pas calmer le jeu. Et est-ce que ce n'est pas l'Europe qui est en train de devenir un problème pour le monde?
Ben, c'est une super question et je vous entendais parler et je me suis dit, je vais être malin, je vais dire l'Europe est en train de devenir un problème pour le monde. Mais là, je me suis fait chinter par la question elle-même. On peut négocier. L'Occident est en train de devenir un problème pour le monde. C'est-à-dire que... moi, je trouve que pour l'élection d'Obama, au moment où il a été élu, j'ai bien vu et souligné la dimension un peu entourloupe du phénomène. C'est-à-dire du genre... c'est une entourloupe parce que la société américaine est toujours aussi racialement organisée... la ségrégation est la même, il y a toujours aussi peu de femmes noires qui épousent des hommes blancs. Je dirais entourloupe au sens extraordinaire de... il a été élu au milieu d'une crise financière où les Américains venaient d'arnaquer la planète. Et donc, vous savez, le truc, comme vous faites de la prestigitation, le truc, c'est d'attirer l'attention sur autre chose. Donc vous êtes en train de faire un truc d'un côté, puis vous agitez un foulard blanc lumineux qu'on regarde, etc. Là, on ajoutait un président noir lumineux... Et ça a permis de faire oublier le truc. Donc, pour moi, les États-Unis restent le problème fondamental en termes, pas simplement d'organisation économique, mais de structuration ou de déstructuration des valeurs. Ils sont quand même au cœur de la mise en place de ce système économique, et je dirais même moral, fou, qui ravage la planète. Mais d'un autre côté... Il faut être raisonnable et responsable. D'abord, Obama est un type intelligent. C'est toujours plus rassurant quand on est intelligent. Il a calmé le jeu. Mais le problème est toujours là. Et surtout, il ne faut pas surestimer la force des présidents américains. La gestion internationale des États-Unis n'est pas le fait du président, mais d'un establishment transpartisan. Et la guerre en Afghanistan continue. Alors, là où je reconnais qu'Obama est fort, c'est avoir le prix Nobel de la paix juste avant d'intensifier l'effort de guerre en Afghanistan. Voilà. Et bien entendu, je dirais bizarrement qu'avec Obama, les États-Unis sont plus revenus dans mon modèle qui était dans le livre. Parce que, en quelque part, la folie de Bush, le fait de se lancer dans des guerres dont les Allemands ou les Français ne voulaient pas, était destructeur de l'Empire. Moi, ce que je disais dans mon livre, je parlais du micro-militarisme théâtral, c'est-à-dire les Américains, pour garder le contrôle de leur sphère, du Japon, de l'Europe et par là de la planète, devaient toujours apparaître comme les défenseurs d'un monde libre menacé, alors qu'en fait, il n'y avait plus de menaces. Et donc, ils devaient inventer des menaces et faire des petites guerres pour apparaître en chef de bande, etc.
Et justifier leur déficit.
Et tout ça, donc il y avait une certaine logique. Mais la guerre d'Irak... tombait pas du tout dans le modèle, puisque là, c'est un accès de folie mégalomane qui disloquait l'Empire. Et je dirais qu'Obama est plus revenu dans le modèle, parce que les États-Unis sont toujours prédateurs, etc. Mais ils apparaissent raisonnables. Ils font une guerre inutile en Afghanistan, où chacun va payer son petit impôt du sang. Chaque pays de l'Empire envoie quelques jeunes se faire tuer inutilement, etc. Et donc là, on est avec la guerre d'Afghanistan qui va se terminer par un immense désastre. Mais au stade actuel, on est dans le micro-militarisme théâtral. La fonction, je ne sais plus qui me disait l'autre jour, ce n'est pas de moi, mais la fonction fondamentale de la guerre d'Afghanistan, c'est de perpétuer l'OTAN. Et donc là, je dirais qu'Obama est revenu dans mon modèle.
Très bien.
Alors pour l'Europe, oui, par contre, là... continue à pérorer, mais c'est vrai que par rapport à ce que je disais dans Après l'Empire, où je parle d'émancipation de l'Europe, je veux dire, la désillusion est épouvantable. C'est-à-dire que ce que les classes dirigeantes européennes sont en train de rater comme occasion historique est phénoménal. Et la responsabilité de la France et de l'Allemagne dans cette histoire sont très très grandes. Et effectivement, avec sa stagnation, son incapacité à prendre... On ne peut pas dire que l'Europe est un problème pour le monde, parce que l'Europe va devenir un problème pour le monde, je pense. Mais pour le moment, et je laisse de côté les États-Unis, les taux de croissance sont satisfaisants dans les pays émergents. Il n'y a pas encore d'effet boomerang de la dépression européenne sur un pays comme la Chine, mais ça ne saurait tarder, si on peut dire. Donc oui, oui, l'Europe est le problème. De toute façon, je veux dire, c'est très, très bizarre de se dire qu'on vit dans le problème dans l'un des problèmes du monde, quand même, cela, historiquement.
Oui, oui. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Pour un historien, c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable, mais
De toute façon, moi,
intellectuellement intéressant.
C'est ce que je me dis toujours, c'est que honnêtement, jusqu'à présent, je me suis réintéressé à la politique, comme vous le disiez tout à l'heure au début des années 90, j'ai perdu tous mes combats. J'étais anti-maastrichtien, le oui passe, je suis au contraire pour le oui au référendum de, c'était quand, 2005 voilà, sur le traité constitutionnel européen, enfin un oui spécial, oui à la préférence communautaire, mais le non passe, enfin je pourrais multiplier les exemples, c'est, bon pour le moment, je ne peux pas dire que mon combat pour le protectionnisme européen soit un grand succès, et je devrais être désespéré, mais comme ma vraie nature, ça n'est pas la politique, le pouvoir, etc., c'est la recherche, et je suis historien, je dépends de le dire, d'une bonne humeur, car je trouve qu'on vit une époque étonnante à analyser. C'est-à-dire même une... Et puis quand même, il faut dire, on n'a pas... je ne pense pas que j'aurais dit des choses comme ça en 1940. Vous voyez, en 1940, on vivait une déroute militaire. Là, on est en train de vivre une déroute industrielle, un véritable 1940, mais c'est sur un rythme lent, sans qu'il y ait de violence. On peut quand même encore un petit peu espérer ou faire semblant d'espérer. Mais c'est vrai que pour un historien, je commence à avoir le regret, là. Moi, j'ai 59 ans, donc bon, c'est clair que je ne vais pas voir... À la fin du film, on n'en voit jamais. Ou j'espère qu'on n'en verra jamais. Mais là, même la fin de cet épisode, c'est plus sûr que... Vous voyez, quand je parlais de l'effondrement, quand je prédisais l'effondrement du système soviétique, là, j'étais vraiment sûr de moi. J'étais le truc... au fond, moi-même, je savais que je le verrais de mon vivant. Là, quoi qu'on dise. Mais quand même, ça reste tout à fait stupéfiant. Et puis, le pire n'est pas certain. Et puis, il y a du ressort, il y a des ressources. Donc, ça peut quand même bien tourner. Il ne faut pas s'affoler.
Alors, venons-en à la grande affaire de votre vie.
Ah.
La famille.
Oui.
Enfin, je veux dire les structures familiales.
Non, mais la mienne aussi, en fait.
La mienne.
Enfin, disons mes enfants plutôt que ma famille.
Oui. Voilà. Alors, dans les années 80, vous avez initié des travaux importants qui montraient que chaque société se caractérise par un modèle de famille, enraciné dans une histoire très ancienne, voire dans la préhistoire.
Et pas près.
L'histoire.
Voilà.
Disons la néo...
Si je ne sais pas si on va parler de ce que je suis en train d'achever actuellement sur l'histoire de la famille.
Alors, je voudrais d'abord vous poser une question là-dessus, parce que vous avez évoqué ces différents modèles, la famille nucléaire, papa, maman, ma soeur et moi, la famille patriarcale, la famille communautaire, etc. Est-ce que ces classifications conservent leur pertinence dans des sociétés qui sont ultra-urbanisées, pleine de flux humains migratoires de toutes sortes, de brassage, est-ce que là, elles peuvent conserver la pertinence ?
Non, elles n'ont pas. C'est-à-dire que moi, je suis spécialiste, c'est mon vrai... j'ai écrit sur beaucoup de sujets, mais mon vrai métier, mon vrai domaine de compétence, c'est l'analyse des structures familiales, pas en général, mais des structures familiales, je dirais, traditionnelles, paysannes, ou... on pourrait ajouter l'anthropologie, les chasseurs-cueilleurs, si vous voulez, ou les économies prédatrices comme ça. Mais donc, ces choses traditionnelles. Et moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans mon travail, c'est de dire que, en fonction de l'existence de tel ou tel type de structure familiale dans telle paysannerie de tel pays se développant, les idéologies d'émergence prenaient telle forme, dans certains cas le communisme, dans d'autres liberté, égalité, fraternité, dans d'autres cas l'individualisme anglais pur, etc. Mais je n'ai jamais écrit sur la famille après. Donc par exemple, si je prends la famille russe, qui pour moi était le révélateur, russe ou chinoise, c'était un espèce de magma communautaire, le père, ses fils, les familles échangeant des filles... comme des paquets à marier.
Et le père et les fils vivent ensemble.
Vivent ensemble, et j'ai tout à fait établi un rapport entre les valeurs d'autorité très fortes de cette famille et les valeurs d'égalité, puisque les fils ont un droit égal à l'héritage, et les valeurs du communisme, autoritaire, égalitaire, etc. Mais je n'ai pas dit que c'était en même temps. Ce que dit le modèle, c'est que c'est quand cette famille se désintègre que les individus libérés et égarés par la désintégration de la structure familiale vont aller chercher dans la politique des substituts. Donc le parti communiste, l'économie centralisée, et ce qui est le plus proche de la vie familiale russe, qui était assez dur, c'était le KGB qui s'occupe des individus en tant qu'individus, si on peut dire. Donc ce que devient la famille après, alors moi je suis convaincu qu'il y a des valeurs qui subsistent, il y a des phénomènes de rémanence, mais j'aimerais, mon rêve actuel, comme je suis en train d'achever le tome 1 de une histoire sur l'origine des systèmes familiaux.
Qui sera la synthèse de vos recherches?
Non, ce n'est pas la synthèse, c'est complètement autre chose en fait. C'est-à-dire que tout mon travail jusqu'à présent, c'était un travail de type structuraliste finalement. On définit des types familiaux, on dit où ils sont dans l'espace, et dans cette typologie finalement, on emboîte d'autres typologies. De typologie économique, type de capitalisme, on voit que certains types familiaux correspondent à certains types de capitalisme, certains types d'idéologie, donc c'est un jeu structurel. Et là, ce que je fais, c'est je cherche à expliquer pourquoi ces types familiaux différents existent. Et donc je définis dans l'histoire, ça a l'air d'une blague parce que ça fait 20 ans que j'annonce ce truc, mais en fait je suis en train de simplement réécrire les trois derniers chapitres du tome 1 qui concernent toute l'Eurasie, donc c'est fait dans ma tête, donc je peux ça va être fini, c'est sûr, mais je devais sentir en moi une certaine jubilation ou soulagement, mais là c'est différent, il s'agit d'étudier à partir d'un type commun de l'humanité un processus de différenciation des types familiaux. C'est juste pas pareil comme modèle. Dans un cas, je ne vais pas commencer à parler d'un livre, quand je vais me porter la poisse si je commence à faire le commentaire d'un livre qui n'est pas tout à fait fini. Voilà. Et alors par contre, j'aimerais bien, si j'ai le temps, parce que j'aurai ensuite un tome 2 à écrire sur l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie, les recherches sont faites, mais il faut l'écrire, c'est très long de... C'est l'un de ces cas où le diable est dans les détails. Hein. Donc, après, j'aimerais beaucoup faire un truc de prospective anthropologique sur ce que la famille est en train de devenir, ce que sont les nouveaux modes de vie, etc. Ça me passionnerait. Mais je n'ai pas travaillé, j'y connais rien, c'est 5 ans de boulot, donc je ne peux pas du tout garantir. C'est clair que le temps de la recherche, pour moi, est un temps fini. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais j'adorerais faire ça. Mais sur les systèmes actuels, je n'ai rien de pertinent ou d'original à dire. Je suis simplement incompétent.
Oui, ce qui vous intéresse,
c'est effectivement c'est simplement... C'est... De... Et puis, moi, je ne pontifie jamais sans recherche. Je suis un empiriste. Donc, si vous partez d'un point de vue philosophique sur l'homme avec un grand H, vous pouvez avoir l'illusion d'arriver à des résultats rapides. Je pense que ça n'est qu'une illusion. Mais si vous avez le genre de méthodologie que j'ai, moi, l'invention de l'Europe, ça m'a pris 6 ou 7 ans. Les structures familiales traditionnelles, donc j'ai dû passer 20 ou 30 ou 40 ans. Vous voyez, c'est pas... Donc la prospective, c'est pareil. C'est un énorme travail de recherche, plus comparatif selon les pays. Parce que le truc dont je suis certain, voilà, c'est que on est certainement dans une époque de... à l'échelle planétaire, de rapprochement des modes de vie. C'est ce qu'on avait fait avec mon copain Courbage en étudiant la baisse de fécondité dans le monde musulman. Donc, il y a un phénomène de rapprochement. Mais l'idée d'une convergence absolue des modèles et de réapparition d'un type unique, j'y crois pas du tout. Mais regardez les indicateurs de fécondité français et allemand.
Les repose sur une base anthropologique.
Honnêtement, je trouve que ce n'est pas une hypothèse très audacieuse de faire qu'il existe un rapport entre la vie familiale et la production d'enfants, même si ce rapport s'est un peu, comment dire, distendu. Et donc quand vous regardez une carte d'Europe avec des fécondités allant de 2 enfants par femme à 1,1, C'est presque du simple au dos quand même. Hein. C'est des écarts beaucoup plus importants que ceux qui existaient avant. Donc l'Europe n'est pas du tout en convergence de comportement. Donc si je trouvais derrière tout ça le même modèle familial, je n'aurais plus, j'aurais plus qu'à devancer l'appel et me suicider, parce que ça voudrait dire que toute ma vie a été consacrée à une variable illusoire.
Très bien, Aurélien. Hein. Écoutez, nous sommes aujourd'hui le 18 juin. Que vous inspirent les commémorations de ce 70e anniversaire, enfin, en tant qu'historien, est-ce que vous donnez du sens à cette façon d'exprimer la mémoire nationale?
Écoutez, je vais vous dire, j'ai une façon hyper facile de botter en touche. Je vais commencer par dire la vérité, à savoir que cette année, particulièrement, je veux dire, je n'y ai même pas pensé. C'est-à-dire, on est dans des problèmes tellement vastes, tellement différents de ce... J'aurais pu essayer de raccrocher, de dire oui, on vivait une déroute militaire, nous vivons une déroute industrielle, mais honnêtement, je ne suis pas du tout dans le... J'ai la plus grande estime rétrospective pour le général de Gaulle, hein, mais réellement, le 18 juin, alors maintenant, mon excuse, vous allez voir à quel point ça va être imparable, on n'y va pas penser. Je vais vous dire, le 17 juin, c'est la date anniversaire de mon fils aîné, et le 19 juin, c'est la date anniversaire de mon père. Alors, vous savez, le 18 juin, pour moi, c'est juste entre les deux et c'est pas important.
Merci, merci Emmanuel Todd. Donc, nous conclurons là-dessus, en attendant avec impatience la parution de cette somme que vous nous promettez, le plus tôt possible.
Votre impatience ne sera jamais égale à la mienne.
Merci.
La France, pays d'assister, je les supporte de moins en moins. À commencer par mon voisin. Ah mais c'est sympa, ce qui passe à la radio. Pourquoi je n'aimais pas Sartre, c'était idiot. Pourquoi toujours aider les gens? Mon chien préféré, c'est le berger allemand. La vérité me frappe enfin maintenant. C'est chacun pour soi, Dieu choisit les méritants. Et tant pis. Que je mette des mocassins ou des bateaux, ça me gêne pas si ma fille doit apprendre le clavecin ou le hautbois. Et puis merde, je vote à droite juste pour savoir comment ça faire. Et puis merde, je vote à droite, je serai sûrement riche tout de suite après. Après je vous mépriserai, ça me rendait malade, la fête de l'humain. Au puits du fou, là je me sentais chez moi. Et s'il fallait tout confesser, c'est seulement à Vulcania que j'ai pris mon pied. Je pourrais m'acheter un petit 4x4, même un gros. On va pas me demander d'être écolo. Je reprends mes disques de Jean Ferrat, mais qu'il est drôle ce Laurent Gérard. Et tant pis s'il faut que je lise le Figaro. Je ne sais pas si je dois être le seul artrio qui applaudit pas. Et puis merde, je vote à droite. Fini d'être culpabilisé. Fini le partage, plus que le mérite. Ceux qui foutent rien pas, on les pille. Ça boostera les statistiques. Chérie, de ça suffit pas. C'est pas assez, on va refaire 5 enfants, revendre notre stérilet. Tu vas quitter ton travail pour mieux tenir la maison. Et toi ma fille, plus jamais en pantalon. Le chômage va reculer, sans fléchir. Mon chien va sûrement se mettre à m'obéir.